autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation pour une émission exceptionnelle aujourd'hui, à l'occasion du grand débat national. Nous nous interrogerons sur l'état de la recherche publique en France. La France occupe une place importante au niveau international. 7e rang mondial pour le nombre de publications scientifiques, 5e rang si l'on compte le nombre de chercheurs par rapport à la population active. Et pourtant, les scientifiques se plaignent des réductions d'effectifs qui ne compensent pas les départs à la retraite, des coupes budgétaires, d'un système qui met les chercheurs en concurrence, de relations parfois contestées avec le monde industriel et d'un temps énorme consacré à rédiger des dossiers de demande de financement avec très peu de chances de les obtenir. Alors, où en est la recherche publique en France? Ce débat sera nourri par trois invités de marque. Antoine Petit, président du CNRS, Patrick Lemaire, chercheur et créateur du mouvement Science en Marche, et David Larousserie, journaliste scientifique au Monde. Bienvenue. Antoine Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, depuis janvier 2018 et vous connaissez bien le monde de la recherche scientifique de l'intérieur, hein, puisque vous êtes vous-même scientifique, informaticien, vous avez été chercheur au CNRS, puis directeur de l'INRIA, l'Institut National de Recherche dédié aux sciences du numérique. Alors comment avez-vous vécu cette première année à la tête du CNRS en quelques mots ?
Alors, le CNRS, c'est gros. Hein, c'est gros, c'est 33 500 personnes, c'est un budget 3,3 milliards, et puis ça couvre toutes les sciences. Alors que quand on est scientifique, comme c'était mon cas, vous l'avez rappelé, ben on connaît bien son domaine, ou pas trop mal, mais là, il faut être capable d'appréhender l'ensemble des domaines scientifiques. Et c'est tout à fait à la fois fascinant, parfois ça peut être même un petit peu effrayant, mais avant tout, je crois, ce qui frappe quand on a la chance d'être à la tête du CNRS comme moi, c'est l'enthousiasme des chercheurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, on va en parler, mais je crois que ce qui les caractérise en premier rang, c'est cet enthousiasme, et peut-être, et ça c'est relativement nouveau dans l'histoire de la science, c'est cette soif de lien avec l'ensemble des composantes de la société.
L'enthousiasme et les difficultés, effectivement, ça va être le thème de l'émission. Alors, Patrick Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS à Montpellier, fondateur du mouvement Science en Marche, mouvement créé en 2014, et vous êtes également président de la Société de Biologie du Développement. Alors de quoi s'agit-il exactement? Quelles sont vos activités en dehors de vos recherches scientifiques?
Alors, mais premièrement, je suis un scientifique. Donc effectivement, ce qui occupe le plus de mon temps, c'est de la recherche scientifique. C'est pas du militantisme ou de l'organisation.
Voilà, mais disons, on va pas vraiment parler de biologie du développement ici, mais plutôt
tout à fait, bien sûr. Mais je tenais à remarquer d'abord que, faire remarquer que j'étais bien un scientifique. Et l'idée, c'est de se dire, finalement, il n'y a pas beaucoup de corps intermédiaires dans la recherche. Et actuellement, ce que nous cherchons à faire, c'est à fédérer les sociétés savantes dans toutes leurs composantes, de telle manière à, quelque part, être une force qui permet de promouvoir la science dans la société et au sein des labos.
Et Science en Marche, alors justement, c'est un mouvement indépendant des syndicats. Alors, où ça en est aujourd'hui ?
Alors, Science en Marche a toujours travaillé en bonne entente avec les syndicats, mais en étant totalement indépendant, effectivement, des syndicats. Science en Marche n'est plus très actif actuellement. C'est dur de garder ce genre de mouvement militant sur la durée. Et c'est pour ça que les sociétés savantes sont peut-être une voie plus pérenne.
Alors David Larousserie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique dans le journal Le Monde, hein. Vous êtes vous-même scientifique de formation et vous avez écrit de nombreux articles sur la situation de la recherche en France et notamment sur le CNRS. Donc le débat que nous allons aborder aujourd'hui ne concerne pas seulement les chercheurs et les institutions, mais également les citoyens, tous les citoyens.
Oui, enfin, vous avez dressé un tableau effectivement qui raconte, enfin, qui décrit un petit peu l'état de la recherche en France. Mais c'est vrai que depuis une douzaine d'années, c'est un secteur qui est vraiment en transformation profonde dans ses manières de financement, dans ses manières de recrutement. Et on a vu aussi monter des questionnements et des interrogations sur le lien avec la société de plus en plus et qui prend plusieurs formes.
Voilà, c'est pour ça que c'était effectivement un débat public. Avant d'aborder les questions qui fâchent, quand même parlons de choses un peu positives. Antoine Petit, c'est cette année l'anniversaire des 80 ans du CNRS. Alors c'est une vénérable institution que vous dirigez et très ancienne.
Très ancienne, et c'est intéressant de constater que le CNRS a été créé le 19 octobre 1939, c'est-à-dire trois semaines après la déclaration de guerre à l'Allemagne.
Et c'est un lien.
Et c'est un lien. Ah bon. C'est-à-dire c'est un lien parce que on aurait pu se dire, on avait d'autres préoccupations que la science à l'époque, mais en fait, on s'est dit qu'il fallait absolument mobiliser tous les atouts de la France pour essayer de gagner cette guerre, et que la science, déjà à l'époque, a été considérée comme un de ses atouts. Et c'est pour ça que, suite en fait à un travail qui avait été conduit sous le Front populaire par Janzet et Perrin, c'est pour ça que le CNRS a été créé. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'à cette époque, la science a été vue comme vraiment un atout, et que peut-être aujourd'hui, la science doit être considérée comme un atout pour les combats actuels, qui sont d'une autre nature, bien sûr, mais qui sont tout aussi importants.
Et précisons aussi la dimension internationale, hein, puisque RFI, nous sommes écoutés partout dans le monde, avec le CNRS à 220 labos à l'étranger,
Le CNRS a plus de 200 labos à l'étranger. Le CNRS recrute chaque année plus de 30% de ses chercheurs permanents en dehors de la France, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la nationalité française, puisque le statut du CNRS permet effectivement de recruter des chercheurs qui ont un statut de fonctionnaire, mais qui peuvent être de n'importe quelle nationalité. Donc on a des chercheurs CNRS qui sont d'un peu près tous les pays d'Afrique, mais aussi d'Asie, des États-Unis, etc.
Voilà, donc après ce préambule positif, commençons par aborder les questions qui fâchent avec ce témoignage de Cécile Michel, archéologue au CNRS.
On a l'impression que la recherche telle qu'elle est conçue en France par nos dirigeants perd son caractère original qu'avait la recherche en France il y a 15-20 ans. D'abord, on va dire qu'il y avait un contrat européen qui était que chaque pays mette au moins 3% de son PIB dans la recherche. En France, la grande partie du financement de la recherche est détournée par le Crédit Impôt Recherche et qui, malheureusement, ne finit pas pour la recherche, même privée. On voit que c'est complètement détourné à l'arrivée. Donc là, il y aurait vraiment du ménage à faire pour pouvoir permettre aux institutions publiques de recherche d'avoir les moyens de continuer à mener la recherche. On a eu des baisses de crédit énormes dans tous les laboratoires de recherche. On a cette année une baisse cruelle de postes mis au concours du CNRS, par exemple. Et quand on voit toutes les jeunes générations qui arrivent sur le marché, on a un vivier, mais on n'a pas de quoi leur offrir de travailler. Et alors moi, j'ai un élément de comparaison, puisque je suis aussi en Allemagne, donc membre d'un projet allemand, et que je vois les sommes dévolues à la recherche en Allemagne par rapport à ce qui est en France sur des projets beaucoup plus limités. Vous avez les investissements d'excellence qui sont donnés à un rassemblement d'universités, d'institutions, etc. Et quand vous regardez la somme qui est finalement donnée, divisée par le nombre de personnes qui vont finalement essayer d'en bénéficier pour faire quelques travaux de recherche, c'est dérisoire. En Allemagne, deux fois ou trois fois cette somme-là est dévolue à un programme beaucoup plus centré thématiquement et à un nombre de gens beaucoup plus restreint. Donc, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et je vous avoue que j'ai arrêté de faire des demandes de projets en France parce que ma vie de chercheuse est beaucoup plus facile en Allemagne.
Donc ce témoignage de Cécile Michel est assez effrayant finalement. Patrick Lemaire, vous adhérez totalement à ce constat assez catastrophique, non ?
Alors je pense de nature, je ne suis pas très catastrophiste. Mais néanmoins, ce que dit Cécile, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont très nettes, notamment la comparaison avec l'Allemagne. Et il faut bien voir que la recherche, c'est une activité international. Les pays sont en compétition les uns avec les autres. Et ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est un décrochage de la France par rapport à des pays comme l'Allemagne, mais aussi par rapport à des pays comme la Chine, qui ont compris qu'il ne s'agissait pas d'être un suiveur en développant simplement de la recherche appliquée, mais qu'il fallait être un acteur majeur en recherche fondamentale. Et c'est ce qui est en train de se produire en Chine. Donc la France décroche.
Donc ça veut dire que, il y a beaucoup de chercheurs qui risquent d'être attirés par une carrière à l'étranger. David Larousserie, vous avez enquêté aussi également sur le nombre de postes offerts, d'une part en France et d'autre part sur une attractivité plus intéressante financièrement à l'étranger.
Si on met quelques chiffres, une dernière note d'information du ministère rappelait que en une dizaine d'années, c'était 30% de recrutement en moins dans les EPST, c'est-à-dire les établissements de recherche non commerciaux, et pour les chargés de recherche, c'est presque un quart de recrutement en moins. Donc c'est des signaux qui sont assez négatifs pour les jeunes. Et en même temps, le ministère rappelle que la population des chercheurs est en augmentation. Et ce qui s'est développé, c'est en fait aussi la multiplication de contractuels, si on utilise ce terme neutre, et de précaires, si on utilise un terme un peu plus critique, c'est-à-dire des contrats courts, qui offrent pas de perspectives et qui ont des conséquences importantes sur la qualité du travail et sur la qualité de vie. Parce que en même temps que les recrutements diminuent, on observe par exemple que les gens sont recrutés de plus en plus tard. Et donc, dans les grandes villes, des difficultés de logement, parce que difficile de trouver des cautions. J'ai même rencontré des directeurs de recherche qui cautionnent leurs jeunes collègues. Vous avez des enfants qui arrivent plus tard, des familles qui se construisent plus tard. Donc, ce climat.
Justement, dans votre journal, Le Monde, 45 présidentes et présidents de sections, commissions du CNRS avaient signé une tribune intitulée « L'étiolement programmé du CNRS est un symptôme du dédain pour la recherche publique ». Alors donc Antoine Petit, vous êtes président du CNRS, comment avez-vous réagi à cette tribune ?
Mais je crois qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte et qui expliquent bien Cécile Michel. Ce qu'elle dit, Cécile Michel, c'est qu'elle dit « je vais en Allemagne parce que c'est plus facile d'obtenir de l'argent pour faire de la recherche ». Elle ne dit pas « je vais en Allemagne pour qu'il y ait beaucoup plus de chercheurs ». Donc je pense que la vraie question qui se pose, c'est trouver le bon équilibre entre un nombre de chercheurs qui, j'ai envie de dire, doit être important, bien sûr, mais aussi de donner les moyens à ces chercheurs de fonctionner. Parce qu'il est un petit peu absurde de recruter des chercheurs via des concours qui sont d'un niveau extrêmement difficile, et ensuite que ces chercheurs passent tout leur temps, ou beaucoup trop de leur temps, à aller chercher de l'argent pour simplement faire leur métier. Et je crois qu'il est là.
Comment ça se passe en Allemagne ? En France, on parlait tout à l'heure, justement, il faut déposer des dossiers pour avoir de l'argent auprès de l'Agence nationale de la recherche. Ça, c'est pas comme ça en Allemagne ? On a de l'argent directement ?
Non, je crois qu'aujourd'hui, à peu près tous les pays du monde ont des agences. Simplement, ce qui différencie l'un pays à l'autre, c'est les taux de sélection. C'est-à-dire qu'on sait que si on a des taux de sélection qui sont trop faibles, d'une certaine façon, l'économie globale du système n'est pas bonne.
Oui, je crois que les chiffres sont les suivants. C'est-à-dire en France, on a 10 à 15% des projets soumis par les chercheurs qui sont financés par l'Agence nationale de la recherche, alors qu'en Allemagne, c'est 25%. Donc c'est quand même nettement supérieur.
C'est à peu près
c'est ça, oui, Patrick Lemaire, vous dites ?
Oui, c'est même un peu plus que ça en Allemagne. C'est plutôt près de 30% et c'est 40% en Suisse.
Ah oui. Et alors, justement, pour ce qui est des postes, on n'a pas donné les chiffres précis. Hein, cette année, 250 postes à pourvoir au CNRS. Et donc, ils ne compensent pas tous les départs, puisque ça compense 250, c'est le nombre de départs à la retraite. Mais à cela, il faut ajouter 80 autres départs, alors de gens qui vont ailleurs, en fait.
Alors, c'est plutôt une trentaine. C'est-à-dire que là, les 80, c'est si on compte à la fois les chercheurs et les personnels d'accompagnement à la recherche. Si on regarde les effectifs, effectivement, on a de l'ordre de 280 départs prévus dans les prochaines années et on va recruter 250 personnes. Maintenant, ces chiffres sont justes. Et il y a un autre chiffre qui est régulièrement cité, c'est le fait que jusqu'à l'année dernière, on recrutait 300 chercheurs, que cette année, on n'en recrute plus que 250. Ce qu'il faut aussi savoir, ce sont d'autres chiffres qui sont tout aussi justes, c'est que le CNRS a à peu près 12 000 chercheurs. Et donc, si vous ramenez 250 à 300, évidemment, la différence est de l'ordre de 16%, 17%. Si vous ramenez 11 950 à 12 000, la différence est moindre. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai équilibre, je l'ai déjà dit, c'est être capable de recruter des chercheurs en nombre suffisant, ça c'est absolument indispensable, mais il faut aussi être capable de leur donner les moyens de travailler. Et oui, ce qui fait la différence entre la France et d'autres pays, c'est que dans la plupart des pays qu'on a cités, que ce soit la Suisse, que ce soit l'Allemagne, on aurait pu rajouter le Canada, les pays asiatiques, si vous êtes recruté via un concours difficile d'être chercheur, vous avez les moyens de travailler.
Cette tribune hein, qui a été signée par 45 présidents de département du CNRS. Hein,
de section du comité national.
Si vous n'étiez pas aujourd'hui président du CNRS, est-ce que vous l'auriez signé ?
Non, je ne crois pas que j'aurais signé parce que leur préoccupation est tout à fait légitime, mais ça n'est qu'un des éléments du puzzle. Et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, que dans un monde idéal, on préférerait recruter plus de chercheurs, mieux les payer, donner plus d'argent aux laboratoires, leur permettre de recruter des doctorants, des post-doctorants. Si c'était open bar, on ferait ça. Lorsque c'est pas open bar, il faut faire des choix. Et les communautés scientifiques sont partagées sur ce que doivent être les choix aujourd'hui.
Vous écoutez autour de la question où en est la recherche publique en France. Petite pause musicale avec Stand Eye Patrol qui interprète My Research.
I gotta do my research. I'm a scientist. I gotta do my research. I'm a scientist. By nature, I'm curious. Science is serious. I wanna learn and study, 'cause life is too mysterious. First step, state of the art. Reading, searching, summarizing, strictness, rigor and precision. I can't afford to make a mistake. I develop a strong methodology inspired by old astronomy. I need conclusive evidence. Results need to be concrete, using statistics, physics and chemistry. My reasoning must be logical. By analogy, I gotta test and try. The solution may be biological. I'm a doctor, I'm a professor, I'm a teacher, I'm a lecturer. I'm a doctor, I'm a professor, I'm a teacher, I'm a lecturer. I got to experiment to get data, to analyze them later. Statistical relationship, linear, expo, logarithmic. LAB laboratory, that's the place where I like to be. And now territories I explore. Whoa, I never seen this before.
Autour de la question où en est la recherche publique en France avec Antoine Petit, président du CNRS, Patrick Lemaire, chercheur au CNRS et créateur du mouvement La Science en Marche, et David Larousserie, journaliste scientifique au Monde. Donc vous venez d'écouter la dernière intervention d'Antoine Petit avant la pause musicale, Patrick Lemaire et David Larousserie. Alors vous aviez quelques remarques pour commencer lors de Patrick Lemaire.
Oui, en fait je comprends assez bien la position d'Antoine Petit, en ce sens que vous avez un mandat qui vous est donné par le gouvernement pour, en gros, gérer un organisme avec les moyens qu'on vous donne. Mais il ne s'agit pas forcément d'un problème d'open bar, c'est un problème de choix stratégique. Le CNRS a perdu 1500 personnes sur les 10 dernières années, donc c'est un nombre qui est important par rapport à ses effectifs. Comment est-ce qu'on décide, d'un point de vue scientifique, je dirais, non idéologique, combien de chercheurs il faut dans un organisme et quelle est votre projection à 10 ans ?
Alors, je pense que quand j'ai parlé d'open bar, je voulais dire pour préciser qu'aujourd'hui, la demande de certaines communautés scientifiques porte plus, par exemple, sur des postes d'ingénieurs et de techniciens, en particulier les disciplines pour lesquelles il y a des gros équipements, où finalement, s'il n'y a pas ces ingénieurs et techniciens, ce sont les chercheurs ou les chercheuses qui font leur travail, et donc il y a d'une certaine façon confusion des genres. Et donc le message que je voulais faire passer, c'est de dire que la recherche scientifique, ce sont des chercheurs et des chercheuses, ce sont des ingénieurs et des techniciens, ce sont des doctorants et des post-doctorants, ce sont du soutien de base au laboratoire, et ce qu'il faut trouver, c'est le bon équilibre entre tout ça. Et ce bon équilibre va en plus dépendre des communautés scientifiques. Si vous faites des mathématiques ou de la sociologie, vous avez besoin de moins d'équipements que si vous faites des lasers de puissance pour ne prendre qu'un exemple.
Oui. Antoine Petit, ce que vous dites, en fait, c'est aussi quand même l'idée que, eh bien, il faut gérer un peu les restrictions budgétaires, c'est-à-dire il faut faire des choix quand on n'a pas un argent, enfin une quantité, un budget illimité. Donc ces choix, vous les faites ici plutôt qu'ailleurs.
Je crois que il y a plusieurs éléments. C'est d'abord, quand vous avez 100, que ces 100, ce soit le budget du CNRS ou votre budget familial, vous ne dépensez que 100. Et en tant que patron du CNRS, moi, je serais le plus heureux des hommes si au lieu d'avoir 100, j'avais 200 ou 300. Ça, c'est clair. Et ensuite, malgré tout, il faut être capable de faire des choix. C'est pour ça que les discussions avec les communautés scientifiques sont extrêmement importantes pour comprendre quelles doivent être les priorités qui, encore une fois, peuvent différer d'une discipline scientifique à l'autre.
Mais David Larousserie, vous vouliez rebondir sur l'Allemagne, puisqu'on cite souvent justement l'Allemagne en exemple. Hein, l'Allemagne qui a atteint d'ailleurs quasiment 3% du PIB affecté à la recherche publique, alors qu'en France, on est quand même en deçà de cet objectif. Alors comment est-ce qu'ils font les Allemands pour s'en sortir? Est-ce que vous avez des remarques
En tout cas, c'était juste pour fixer les ordres de grandeur. Effectivement, grosso modo, les Allemands, ils dépensent deux fois plus en R&D que la France.
En recherche et développement, donc. Hein, oui.
Et donc, en comptant le privé, et pour le public, le pourcentage est à peu près de moins de 1% rapporté au PIB pour les deux pays. Donc, les Allemands dépensent vraiment beaucoup plus que la France. Et on a l'impression que les Français sont en train de compter chaque petit million et que les dépenser serait vraiment une fuite.
Pour que la France investisse dans la recherche publique autant que l'Allemagne, il faudrait rajouter en gros 5 milliards par an.
Oui, ou même 10 selon...
Entre 5 et 10 en fonction. 5, c'est une estimation basse.
Quand on évoquait le décrochage, tout le monde s'accorde à dire qu'au minimum 1 milliard par an pour le système de recherche publique serait nécessaire.
Puis l'investissement, puisqu'après cette recherche aboutit à des développements.
Sur les chiffres, parce que je pense que c'est important. Le PIB, l'Allemagne va atteindre 3% du PIB consacré à ce qu'on appelle la dépense de recherche et développement, alors que la France est à 2,2%. La différence représente chaque année de l'ordre de 45 milliards d'euros. Voilà. C'est ça les chiffres. Alors après, de savoir en combien de temps on peut rattraper, j'ai envie de dire, on peut rattraper en un an, il suffit de mettre 45 milliards. Si on veut rattraper en 10 ans, on est plutôt, comme le disait Patrick Lemaire, sur l'ordre de 5 milliards d'euros par an.
Ceci dit, on ne s'attend pas nécessairement à ce que le gouvernement rajoute ce qui manque à l'industrie privée.
Ah, tout à fait. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est que cette dépense, il y a une partie publique, une partie privée. Et aujourd'hui, le déficit est plus important comparativement sur le privé que sur le public. Donc Patrick Lemaire a tout à fait raison. Il ne s'agit pas de dire que tout l'argent, me semble-t-il, doit venir de la sphère publique. Il faut aussi qu'on soit capable de mieux travailler avec les entreprises pour qu'elles aussi investissent davantage dans la recherche et le développement.
Il y a quand même, disons, un thème qui revient assez régulièrement dans les conversations avec les scientifiques, c'est que certains reprochent, alors pas simplement au CNRS, mais disons à la recherche publique d'une façon générale, de se livrer à une course à l'excellence. C'est-à-dire, on va donner beaucoup d'argent à très peu de personnes, on va attirer des stars, et donc la plupart des laboratoires, disons, vont en souffrir. Patrick Lemaire, c'est quelque chose...
Le soulevé est intéressant. Savoir comment est-ce qu'on utilise l'argent disponible à bon escient. Et quels sont les critères pour dire on n'aurait pas pu l'utiliser mieux. Est-ce qu'il faut qu'on le distribue à tout le monde de manière équitable? Est-ce qu'il faut le distribuer au hasard? Certains proposent ça. Est-ce qu'il faut le cibler sur des gens spécifiques, indépendamment de leur projet? Le cibler sur des projets plus ou moins indépendamment des gens? Est-ce que les super riches, c'est une bonne idée? Est-ce que les très pauvres, c'est une bonne idée? Un des organismes qui fait des études de manière assez rusée là-dessus, c'est un organisme international qui s'appelle HFSP, Human Science Frontier Project, qui s'est rendu compte que l'argent qu'il donnait à ces groupes de chercheurs ne faisait aucune différence. C'est-à-dire quand il comparait la productivité des gens qui ont ce contrat et de ceux qui échouent à ce contrat, ils ne voient aucune différence. Et ils attribuent ça au fait que les gens qu'ils sélectionnent sont des gens qui sont déjà bien financés. Donc au-dessus d'un certain seuil, finalement, vous pouvez donner plus d'argent à des groupes, ça n'aura pas d'impact.
Oui, mais alors, c'est, Antoine Petit, en préparant cette émission, vous parliez d'une idée sur laquelle on pourrait payer les chercheurs différemment selon la discipline, puisqu'aujourd'hui, un chercheur au CNRS est payé de la même façon qu'il soit historien, physicien ou biologiste. Hein.
Alors, lorsqu'on parle d'argent, il y a vraiment deux éléments complémentaires. Il y a la rémunération personnelle des chercheurs et des chercheuses, et il y a aussi l'accompagnement scientifique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes recruté dans la plupart des pays sur un poste de prof, vous avez automatiquement un certain nombre de postes de doctorants, de post-doctorants, ingénieurs qui vont avec. Et donc lorsqu'on parle de rémunération, il faut englober ce paquet. C'est tout ça. Après, oui, je souhaiterais qu'on se pose la question en France sans tabou et sans idéologie, qui est la suivante, c'est dans la plupart des pays du monde, vous n'êtes pas payé au même niveau selon ce que vous allez enseigner, parce qu'on est dans une logique de concurrence. En France, ça n'est pas le cas.
Mais rémunérer les chercheurs au mérite, d'une certaine façon, c'est un peu ça.
C'est aussi ça, et je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de cette discussion, parce qu'il faut quand même savoir qu'un jeune chercheur qui est recruté au CNRS, aussi brillant soit-il, il est payé à moins de 3000 euros bruts par mois, alors qu'il est à thèse plus 3, 4, 5. Donc c'est des gens qui sont à bac plus 12, 13, 14, 15. Alors vous allez me dire, c'est mieux que le SMIG, ça c'est clair, mais ça reste, c'est pas énorme. Et c'est surtout problématique si vous êtes payé 3000 euros brut à Grenoble, et si on vous offre 6000 ou 7000 à Genève ou à Lausanne, vous allez probablement réfléchir à deux fois, même si la vie en Suisse est peut-être un peu plus chère.
Mais alors l'inconvénient, c'est quand même que ça peut entraîner aussi une compétition, David Larousserie, entre les chercheurs. C'est ce que vous dites.
Je suis pas sûr
que
le salaire au mérite soit pas idéologique, mais ça.
Bien sûr, je suis d'accord.
Vous voulez discuter sans idéologie, mais en réalité, même les autres systèmes sont toujours un peu porteurs d'idéologie.
Mais cette compétition entre les chercheurs.
Oui, ce que moi j'ai observé, enfin avec d'autres, c'est que on raconte souvent dans les belles histoires de science comme étant de la compétition. Mais ce qui était un paramètre de la recherche devient presque une valeur. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de il faut monter dans les classements, il faut être meilleur que les autres, etc. Et ça, ça a quand même des conséquences en chaîne sur tout un tas de fonctionnements qui s'écartent un petit peu de la norme. J'ai rendu compte récemment d'une étude sur les jeunes chercheurs, et la sociologue elle disait même que ça lui avait fait mal au cœur de les entendre, hein, à quel point ils avaient conscience du système et à quel point ils étaient en train de tricher. C'est-à-dire qu'ils finissent leur article pour le publier en sachant qu'ils n'ont pas tous les résultats ou que c'est pas parfait. Ils vont tricher avec la lettre.
Ça peut entraîner un biais
aux éditeurs. Oui, mais souvent on va parler de la fraude et tout ça.
Oui, mais involontaire, disons.
Mais toutes ces pratiques-là se sont répandues dans le système, et c'est pas très bon. Et je trouve que dans les discours managériaux dominants, la compétition et l'excellence devient la bonne manière de regarder la recherche.
Alors justement, ça nous mène à la question de l'évaluation de la recherche et du temps nécessaire. Écoutons ce témoignage de Loïc Bertrand, chercheur au CNRS, et Caroline Tokarski de l'Université de Bordeaux.
On a clairement une question dans les sciences du patrimoine autour du temps long. C'est-à-dire que ce qu'on voit, la question du financement de la recherche est une vraie question. La question de parvenir rapidement aux résultats, c'est en tout cas un des objectifs clairs et affirmés par les politiques de manière claire. Or, toute recherche interdisciplinaire prend du temps pour développer des outils, prend du temps pour se comprendre, prend du temps pour former des jeunes étudiants ou étudiantes. Et on le voit bien sur d'autres thématiques, également pour les sciences de l'environnement, comment réussir effectivement à concilier le temps qui est nécessaire à celui de la recherche et son mode de financement ou d'évaluation. Donc là, on a vraiment un obstacle aujourd'hui à l'interdisciplinarité qui est très clair.
L'évaluation en elle-même de l'interdisciplinarité, parce que c'est vrai qu'en général, les projets sont évalués par catégorie. Quand on a un travail qu'on propose comme étant interdisciplinaire, il y a des choses à faire. Pour l'instant, les projets sont quand même plutôt soutenu sur une thématique ou une expertise, en fait. Alors, bien que le mot interdisciplinarité apparaisse à beaucoup d'endroits et soutenu globalement, très concrètement, ça reste difficile d'être soutenu sur un projet réellement interdisciplinaire.
Alors, qui veut réagir sur ce témoignage de chercheurs, sur l'évaluation de la recherche et comment concilier le temps nécessaire à la recherche et puis les modes d'évaluation? Antoine Petit?
Ouais, je veux bien. D'abord, c'est toujours amusant parce que les chercheurs ont toujours l'impression que leur discipline est spécifique. Le temps n'est pas plus long en sciences du patrimoine que dans d'autres domaines. On peut prendre un exemple très d'actualité dont tout le monde parle en ce moment, c'est le deep learning en intelligence artificielle. Il faut savoir que les algorithmes de deep learning, d'apprentissage profond, sont des choses qui ont été inventées il y a 30 ans. D'accord ? Et il y a 30 ans, ça marchait pas, pour un tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Et c'est 30 ans après que ça a un impact. Donc oui, la recherche s'inscrit dans le temps long. Par contre, et là je suis peut-être pas en accord complet avec ce qui s'est dit avant, je pense qu'il est normal que les chercheurs soient évalués. Et il est normal de récompenser et de favoriser ceux d'entre eux qui sont les plus brillants. On est tous ravis qu'on a des médailles Fields, on est tous ravis qu'on a des prix Nobel. Il est normal qu'on encourage l'excellence scientifique. Là, effectivement, la compétition fait
partie... ce qu'on entend dire dans le monde de la recherche, c'est que souvent, justement, comme ils n'ont pas beaucoup de financement, il faut trouver des contrats avec des entreprises privées. Et il y a quand même certains domaines où c'est plus facile que d'autres. C'est-à-dire, si on prend par exemple, je sais pas, la linguistique du Moyen-Âge, c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir des contrats avec l'industrie que les microbiologies, les techniques de microbiologie, par exemple, Patrick Lemaire.
Oui, enfin, les contrats, un des problèmes est que les contrats industriels dans notre système, de toute façon, sont extrêmement rares. Ça, c'est la première chose, on en reparlera peut-être. Donc, ce qui se passe souvent, c'est les gens, lorsqu'ils ne trouvent pas de financement, ils n'ont pas de financement. Et donc, on se retrouve à payer les salaires, soit de chercheurs titulaires, sans leur donner les moyens d'accomplir leur mission, ce qui est quand même particulièrement peu efficace.
Mais cette rémunération au mérite, hein, comme le dit Antoine Petit, vous, ça ne vous choque pas spécialement, vous
seriez tout dépend. D'accord. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, se dire les rémunérations peuvent être adaptées en fonction des disciplines. Et ça, Antoine Petit ne va pas me contredire. Les informaticiens, c'est des métiers qui sont sous très forte tension dans la société. Lorsque le CNRS cherche à recruter des informaticiens, que ce soit des ingénieurs ou des chercheurs, et qu'il leur montre une grille de salaire standard, eh ben, ils regardent la page d'après, quoi. Oui. Ils ne viennent pas. Donc là, il y a cette première chose, c'est s'adapter, en fait, aux rémunérations qui sont autour de la recherche. La deuxième, c'est réellement une rémunération au mérite. Alors, il faut bien voir que la recherche, c'est une activité qui est, de toute façon, hautement compétitive. Si vous êtes le deuxième à trouver quelque chose, ben vous n'avez rien trouvé. Donc, de toute façon, c'est compétitif. Mais comment est-ce que l'on mesure l'efficacité? Comment est-ce que l'on mesure la qualité de quelqu'un?
Oui, puisque quand même l'ANR, c'est-à-dire ça consiste à donner quand même beaucoup d'argent à très peu de gens. C'est quand même
C'est pas forcément beaucoup d'argent. Pour un mathématicien, c'est trop d'argent. Pour un biologiste, ça n'en est pas assez. Donc là, il y a déjà des différences d'un thème entre thèmes. Par exemple, le CNRS, je pense, est signataire assez récemment de DORA. DORA, c'est une déclaration qui a été faite à San Francisco qui dit il faut arrêter de juger les gens sur l'impact des journaux dans lesquels ils publient. Effectivement, c'est probablement une bonne idée. Simplement, comment on les juge alors? Oui, alors, on va les juger
en fonction de leurs travaux, de ce qu'ils trouvent. Donc, si une équipe a des résultats exceptionnels.
Comment on juge que les résultats sont exceptionnels? Alors, on peut juger que les résultats sont exceptionnels parce que 10 ans après, c'est des papiers qui sont extrêmement cités. Donc, la communauté, en gros, ils ont changé la donne dans leur domaine. Mais ça, c'est 10 ans après. Comment on fait entre les deux? Et c'est ça le problème.
Alors écoutons justement, puisque l'heure tourne tellement vite qu'on a tellement de choses à aborder, je voudrais qu'on écoute ce témoignage de Stéphane Douady qui est physicien, qui justement laisse entendre qu'il n'y a pas que l'argent dans la recherche scientifique.
On avait une recherche européenne, ou en tout cas française, qui était extrêmement originale, qui vivait avec 3 bouts de ficelle. Moi quand j'étais jeune, on n'avait presque pas d'argent, mais on était libre, donc on bricolait des choses. On faisait des petites choses originales, intelligentes. On était obligé d'être intelligent parce qu'on n'avait pas de matériel. Et après, il y avait les Américains qui disaient « Ah, ça, c'est intéressant, ça hein !» Et ils refaisaient un contrat. Ils étaient sûrs que ça allait marcher parce que les Européens l'avaient fait. Ils faisaient un travail très sérieux, bien publié, bien publicitaire. Et comme ça, on avait un écosystème qui fonctionnait. Si maintenant, en France, on est obligé de faire des contrats pareils et que c'est seulement les gens qui sont reconnus, qui font toujours la même chose comme tous les autres, il n'y a plus que cela qu'on finance, eh ben, la recherche va se stériliser. On ne va plus avoir d'apport d'originalité. Et ça, c'est très dangereux.
C'est quand même assez étonnant ce témoignage de Stéphane Douady, puisqu'il dit en gros, bah, à l'époque on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on était plus inventif. Et ça rejoint d'ailleurs David Larousserie, l'un de vos articles, où vous parliez des petites équipes qui étaient plus innovantes que les grosses équipes, puisque ça va à l'encontre de l'idée dominante qui consiste à vouloir regrouper les laboratoires et faire des grosses équipes qui seraient plus efficaces.
Oui, non, mais c'est vrai, ça persiste encore. On voit encore des petites équipes qui innovent avec peu de moyens, on peut en tirer une leçon générale sur affamons les chercheurs et oui. ils trouveront mieux.
Moi, je trouve ces discours extrêmement dangereux, parce que comme le dit David Larousserie, si la conclusion c'est donnons aux chercheurs le moins possible parce qu'ils vont être inventifs, ça n'a aucun sens. Je pense que le fantasme c'était mieux avant. Il faut arrêter. Moi, j'ai passé ma thèse il y a 35 ans. Non, c'était pas mieux avant. Et on cherchait déjà de l'argent. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter ce mythe.
Oui, finalement, c'est un discours vieux comme le monde. C'est-à-dire, depuis toujours, les chercheurs n'ont pas assez d'argent, d'une certaine façon.
Oui, mais quand même, je trouve que la situation se durcit sans qu'il l'ait vraiment mérité aussi. Parce qu'il y a quand même un traitement de la recherche qui est un traitement qui s'est appliqué à d'autres secteurs publics et qui fait qu'on ne voit pas pourquoi ces gens qui veulent de la liberté, de l'imagination, etc., sont plus contraints que
oui, alors justement, parce qu'on parle d'argent, on en revient à l'argent, hein, le nerf de la guerre. Parlons quand même de quelque chose de très important qui est le crédit impôt recherche. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi il y a tant de chercheurs qui, justement, ont des griefs contre ce crédit impôt recherche? Oui, Patrick Lemaire.
Je peux peut-être essayer. Donc, moi, je suis un chercheur très fondamental. Donc, je sors un petit peu de ma zone de confort.
Alors, en quoi ça
consiste? Le crédit d'impôt recherche, le principe est de dire on va encourager les entreprises à investir en recherche et développement en disant, une fraction de l'argent que vous allez investir, on va le déduire de vos impôts. Donc, vous allez avoir un crédit d'impôt. Donc, pour l'État, c'est une non-recette.
D'accord, oui, c'est un cadeau fiscal qu'on fait aux entreprises, à condition qu'elles investissent dans la recherche.
À condition qu'elles investissent.
Maintenant, et le développement.
Et le développement. Voilà. Alors là, il y a deux problèmes. Le problème, c'est justement la frontière entre la recherche et le développement. Elle n'est pas toujours très facile à trouver. Le crédit d'impôt recherche, en plus, est une cote mal taillée parce que ça inclut les collections des grands couturiers, par exemple.
On peut se demander en quoi ça concerne la recherche.
Quel est le rapport entre la recherche et le développement?
La collection des grands couturiers, donc, voilà. c'est-à-dire, ça rentre dans le cadre de...
C'est historique.
Depuis le début,
c'est historique.
Mais comment on justifie cela?
Alors, la chose intéressante avec le crédit d'impôt recherche, c'est alors que les chercheurs dans la recherche publique sont constamment évalués, contrôlés, une des raisons pour lesquelles ils vivent très mal le crédit d'impôt recherche, c'est que justement là, il y a peut-être 3% des entreprises qui vont être contrôlées. Donc, c'est un contrôle quasiment inexistant.
La deuxième chose. De toute façon, ça concerne uniquement la recherche privée, puisque.
Oui, mais pourquoi pas? Mais c'est le rôle de l'État. Mais c'est le rôle de l'État d'encourager les entreprises privées à faire.
Elles ont des déductions fiscales, mais elles n'investissent pas dans la recherche.
Mais voilà. En fait, l'idée, c'était d'avoir un levier, que l'État investisse un petit peu, et que les entreprises allaient, du coup, saisir l'opportunité et investir beaucoup plus.
Oui, et le second point dont vous parlez,
non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la recherche privée continue à stagner. En France, malgré plus de 6 milliards d'euros par an. Donc là, on parlait 5 milliards d'euros de déficit recherche publique.
C'est beaucoup 6 milliards, c'est-à-dire par rapport au budget du CNRS, qui est de
2,7
en dotation d'État. C'est deux fois le budget du CNRS.
Donc, non. Pour des choses non contrôlées.
Antoine Petit, vous voulez réagir?
Oui, Serge, j'avoue ne pas partager ce fait que les chercheurs lient le financement de la recherche dont nous avons besoin avec le crédit impôt recherche. J'ai envie de dire, si pour le crédit impôt recherche, l'État considère que c'est utile pour les entreprises, je crois que ça l'est, très bien, mais trouvons de l'argent, et là nous avons besoin d'argent pour la recherche publique, s'il le trouve ailleurs, tant mieux. C'est-à-dire, je pense que le fait de financer la recherche fondamentale, nous en avons besoin, mais de financer aussi les entreprises, je crois qu'elles en ont besoin. Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. Et donc, si demain, on disait on supprime le crédit impôt recherche, il n'y a aucune raison pour que les 6 milliards arrivent d'un seul coup dans la
oui,
recherche
publique.
Oui, on
s'est perçu comme une
voilà. injustice. Je pense que la vraie David question, Larousserie. C'est de l'équilibre entre les deux.
Oui, non, mais le CIR, c'est un peu l'ISF. Quoi. C'est le sujet tabou par excellence. Ouais. Il ne faut pas y toucher. On ne sait pas pourquoi, mais il ne faut pas y toucher. Ah. Moi, je m'amuse quand j'appelle des députés ou des conseillers au ministère, à leur demander, et au fait, y aura-t-il, par exemple, pendant cette discussion sur la loi de programmation pluriannuelle, une discussion sur le crédit impôt recherche. Et immédiatement, il y a un blanc.
Oui.
En fait. Et puis après, ils retrouvent leurs esprits et peuvent servir un discours, etc.
Patrick Lemaire, oui.
En fait, oui, c'est vrai, il ne faut pas nécessairement opposer financement de la recherche privée et financement de la recherche publique. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Là où le crédit d'impôt recherche est choquant, c'est qu'il ne marche pas. Ça, c'est choquant. Et c'est choquant qu'il puisse y avoir un système de financement de la recherche privée qui ne marche pas et qui est considéré comme tabou. Et que d'un autre côté, le financement de la recherche publique qui marche, elle est considérée comme accessoire. L'incertitude sur le coût du crédit d'impôt recherche tous les ans est de l'ordre de 50 fois le montant qui serait nécessaire pour embaucher 50 chercheurs de plus au CNRS. Ça, c'est pas normal.
Oui, Antoine Petit, vous voulez...
Non, moi, je ne veux pas me présenter comme un défenseur du CIR. Je pense que Patrick Lemaire a raison et c'est normal d'évaluer. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que, en fait, le CIR est une chose compliquée parce que recherche et développement, ce n'est pas exactement les mêmes ressorts. Et dans le CIR, il y a une vraie différence entre toutes les petites start-up et PME qui en bénéficient et un certain nombre de grands groupes dont on peut parfois se dire qu'ils font de l'optimisation fiscale. Mais je pense qu'il faudrait vraiment regarder le détail. Et surtout, je pense qu'on a besoin de plus d'argent pour la recherche publique. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. S'il doit être pris au CIR, peut-être. S'il doit être pris ailleurs, peut-être aussi. La vraie question, c'est comment on fait pour augmenter nos dépenses en recherche et développement au niveau français.
Oui, petit...
En fait, pour aller plus loin,
Patrick Lemaire,
je pense qu'il faut... Non seulement il ne faut pas opposer recherche privée et recherche publique, mais il faut réussir à ce que les deux rentrent en synergie. On parlait là de l'emploi scientifique. L'emploi scientifique, le fait qu'il y ait 50 chercheurs de moins embauchés cette année, qu'il n'y ait plus de directeurs de recherche sur des concours externes, c'est grave. Mais on forme 12 000 docteurs. Le fait que ces docteurs, leur diplôme, aient très peu de cotes dans l'industrie privée, qu'on ne les retrouve pas dans les strates de direction des entreprises, ça c'est beaucoup plus dramatique que les 50 postes qui manquent au CNRS. Et si quelque chose doit se produire, pourquoi est-ce que le CIR rend les gens furieux? C'est que normalement, il est censé aussi favoriser l'emploi des jeunes scientifiques dans le monde privé, et que ça ne marche pas non plus.
Donc, Alors, évidemment, il y aurait beaucoup à débattre sur ce point, mais comme RFI, Radio France Internationale, est une radio internationale comme le nom l'indique, je voudrais qu'on termine cette émission sur une dimension justement plus internationale en écoutant cette interview de la ministre malienne de la recherche scientifique Assetou Founé Samaké-Migane au micro de Charlie Dupiot.
Au Mali, aujourd'hui, nous avons fait un grand pas. Nous avons pour la première fois un document de politique nationale de sciences, de technologie et d'innovation qui fixe les priorités de recherche dans deux domaines essentiels, l'agriculture et la santé. Pour la première fois, nous avons un ministère dédié à la recherche scientifique et à l'innovation dont j'ai la charge présentement.
Quel est le budget du ministère de la Recherche au Mali?
Ne serait-ce que pour financer les projets de recherche dédiés exclusivement aux priorités du pays, le Mali alloue 0,2% de son PIB pour cela.
0,2% environ du budget, ça reste malgré tout peu encore?
Oui, mais c'est ce qui nous vaut aujourd'hui d'être le troisième pays en termes d'investissement. Pour les pays au sud du Sahara, après l'Afrique du Sud et le Kenya, c'est le Mali qui occupe la troisième place en termes d'investissement dans la recherche scientifique.
Et vous avez une idée du nombre de chercheurs au Mali?
Au Mali, aujourd'hui, 2 milliers, ce que nous appelons les enseignants chercheurs. Naturellement, il en faut plus. C'est très peu pour un pays qui aspire à l'émergence. ce que nous souhaitons, une collaboration, et ce que nous faisons avec l'IRD qui va nous permettre également d'emboîter le pas, de développer la recherche malienne. Il nous faut valoriser les résultats de la recherche.
Donc nous parlons depuis le début de l'émission de la recherche publique en France, mais cette recherche publique en France, elle a aussi des répercussions internationales dans le sens où elle peut justement attirer des chercheurs étrangers ou bien contribuer au développement. Et d'ailleurs, Antoine Petit, président du CNRS, vous étiez en Afrique la semaine dernière, c'est bien cela ?
J'y vais ce soir.
Ah, ce soir, vous partez en Afrique, vous allez où exactement ?
En Éthiopie, avec Éthiopie et
Alain. Alors pour faire quoi ?
Mais en fait, c'est dans le cadre de la visite du président Macron en Éthiopie. Et je crois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le CNRS a à peu près 200 laboratoires, un peu plus de 200 laboratoires en dehors de ceux du territoire français. Nous avons un de nos 8 bureaux à l'étranger qui est en Afrique du Sud et qui a vocation à rayonner en Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent dans lequel il y a un potentiel scientifique absolument extraordinaire. C'est vrai, on l'a dit, que les investissements ne sont pas tout à fait à la hauteur. On parlait de 0,2% au Mali. Maintenant, il faut voir d'où les gens viennent. Et je crois que ce qui est extrêmement important, c'est qu'on arrive à développer des coopérations qui fait que, certes, on attire peut-être quelques scientifiques africains ou africaines en France, mais aussi qu'on leur permette ensuite de rentrer dans leur pays. Je crois que ce qui est important, c'est surtout de ne pas encourager une fuite des cerveaux de l'Afrique vers chez nous, mais qu'on puisse avoir des échanges et construire des coopérations sur le long terme. Et je crois que ce qui est très intéressant avec les pays africains, c'est qu'on l'entend, il y a des priorités très clairement définies pour le Mali, l'agriculture, la santé, et que ce sont des domaines sur lesquels les chercheuses et les chercheurs français peuvent aider nos amis africains à se développer, à développer des formations, parce que formation et recherche sont absolument indissociables. Et je crois que c'est de mon point de vue, pour la France, ça doit être une priorité dans les années à venir.
Mais est-ce qu'on peut dire que, donc Patrick Lemaire, vous êtes scientifique et tous les scientifiques travaillent forcément avec d'autres scientifiques d'autres pays, que la France représente, le modèle scientifique français représente, enfin est envié, ou est-ce qu'il, au contraire, un petit peu désuet aujourd'hui par rapport à d'autres modèles comme les États-Unis ou d'autres pays ?
Ce qui caractérise le système scientifique français, c'est le fait qu'il y a une politique d'emploi pérenne qui est beaucoup plus développé que dans d'autres pays.
C'est-à-dire dans d'autres pays, on est davantage sur des contrats.
On va être sur des contrats.
Temporaires.
On va être, même si on prend la situation de l'Allemagne. L'Allemagne est très riche, mais il y a un réel problème d'emploi scientifique pérenne qui est en partie compensé par le fait que les entreprises embauchent beaucoup de docteurs, que la haute administration embauche également beaucoup de docteurs, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Donc nous, dans notre pays, le fait que le doctorat ne soit pas reconnu, si on enlève cette politique d'emploi pérenne, ce qui va se produire, c'est qu'on va réellement avoir une chute dramatique du nombre de docteurs. C'est déjà ce qui est en train de se passer en termes d'attractivité du doctorat, avec une baisse d'environ 15% sur 10 ans. Donc il faut qu'on fasse attention. Emploi pérenne et également les infrastructures de recherche. Je pense qu'on a des infrastructures de recherche qui sont très bonnes.
Et pour conclure, justement, puisque l'heure tourne malheureusement, David Larousserie, alors ce système français, quels seraient les avantages, les inconvénients en quelques mots ?
C'est un système qui est très attractif, puisque M. Petit l'a rappelé, il y a une trentaine de 30% de recrutement au CNRS viennent de l'étranger. Et c'est bien qu'il y ait de la diversité aussi dans les systèmes, et malheureusement, on a l'impression que tout converge vers un modèle plutôt anglo-saxon.
Anglo-saxon, quelle serait la différence en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas ?
Monsieur le maire l'a rappelé, cette contractualisation plutôt, ces agences
France,
de moyens.
On a davantage de chercheurs salariés.
Mais aux États-Unis aussi, ils ont des baisses de nombre de docteurs nationaux. Comme c'est un pays très attractif, évidemment, ils ne l'ont pas vu parce que tous les pays se battaient pour faire leur thèse là-bas.
Petit mot de conclusion très rapide. Alors Antoine Petit.
Moi je vois, il y a un super projet en ce moment en Afrique qu'il faut à moyen pousser, qui va à l'encontre peut-être d'un certain nombre de propos qui ont été tenus, mais qui est un projet d'ARC, de African Research Council, qui sera l'équivalent de l'ERC, European Research Council, qui est donc un système de bourses individuelles au mérite qui peuvent être décriées, mais qui néanmoins depuis 10 ans ont fait leurs preuves en Europe. Et je crois que c'est un excellent moyen que d'aider la recherche africaine à identifier ses meilleurs talents et les aider à développer des recherches.
Eh bien, l'heure touche à sa fin. Petit mot de conclusion très 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 rapide, si vous avez
Simplement sur l'Afrique. Il est important que la France continue à attirer des étudiants africains et donc garde des frais d'études bas.
Très bien, merci beaucoup à vous Antoine Petit, Patrick Lemaire, David Larousserie pour ce passionnant débat sur l'état de la recherche en France. C'était Autour de la question avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. Rendez-vous demain, nous parlerons de la façon dont le cerveau réagit aux addictions. Portez-vous bien, merci de votre fidélité et dans quelques instants, les infos sur RFI.